Pour notre troisième partie de ce 32e Radio Barque, Marie Batte, comme je l'indiquais en début d'émission, on va commencer peut-être par là, parce que c'est quand même le gros sujet d'actualité de ce week-end, le Salon du Livre. Alors vous êtes chargée, Marie Batte, à l'agglomération, au Grand Narbonne, de la culture, et notamment, évidemment, de ce phare de la culture narbonnaise du Grand Narbonne. Quelques mots d'historique, rapidement.
Donc le Salon du Livre a été au départ un salon de la jeunesse, de la littérature jeunesse. Et là, nous sommes à la 6e édition du Salon du Livre, porté par l'agglomération, et du Salon du Livre toute génération, avec 2 journées dédiées à la jeunesse et 2 journées grand public. Ce que je voulais dire, cette année, on arrive presque à la maturité de ce salon. La 6e édition, on est quand même un petit peu rodé, le public est au rendez-vous, il est croissant chaque année. Bon, la particularité, ça tombe au moment des élections européennes. Donc, on a invité des écrivains italiens, belges, espagnols. Je crois surtout, je citerai surtout la présence du roman social espagnol avec Victor del Árbol, Alfonso Cervera, Rafael Rey, Carlos Zanon. Mais ce qui reste et qui perdure, c'est surtout un salon avec des thèmes divers. La bande dessinée, des albums jeunesse, le roman, le polar, les sciences, l'actualité, le réchauffement climatique. Une grande variété de thèmes et de rencontres qui, justement, s'adressent à un public le plus large possible, voire à un public aussi familial, puisqu'il y a des animations pour les plus jeunes avec Choupi, avec la présence du moulin à papier de Brousse et Villaret, Durand qui perd... l'artisanat du livre pour accrocher les jeunes. Enfin, voilà, des choses vraiment qui s'adressent, je pense aussi à Amphoralix, le livre qui a été publié par les éditions Cabardès. Donc, il y a aussi toute une partie qui s'adresse à la jeunesse. Mais je voudrais d'abord insister, moi, sur le travail en amont. C'est-à-dire que le Salon du Livre, en fait, c'est ce qui est visible de l'iceberg, je dirais. Mais le travail qui se fait toute l'année autour des équipements culturels du Grand Narbonne, c'est ce qui permet ce Salon du Livre. Et là, nous avons toute l'année à la médiathèque, des conférences, des rencontres, des expositions qui s'adressent au grand public. Nous avons également à l'école d'art plastique des manifestations, des artistes en résidence, pareil au conservatoire, du travail entre les équipements, y compris théâtre et conservatoire. Toute cette synergie qui se met en place et qui favorise justement la réalisation de ce salon. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un travail avec les scolaires. Parce que là, c'est ce qui est moins visible aussi. 3000 enfants participent.
Ça rappelle la genèse, le salon de la littérature et jeunesse. Vous avez gardé cette dimension.
J'ai gardé surtout l'idée qu'il fallait faire un travail de fond avec le public et avec les enfants. Et je reviendrai peut-être un peu à cette formation qui me paraît importante pour les élèves, qui est en fait la formation du citoyen de demain. Et pour les adultes, peut-être cette tradition qu'on a un peu oubliée d'éducation populaire tout au long de la vie et qui, à mon avis, est le rôle de tous ces équipements culturels.
Oui, donc ce salon vient couronner finalement une action qui s'étale sur toute l'année.
Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a des réunions de travail entre les professeurs, les libraires et le service culturel du Grand Narbonne pour le choix des ouvrages sur lesquels les élèves vont travailler tout au long de l'année. Donc je trouve que c'est vraiment un travail, moi j'aime ce terme, un travail de fond qui s'enracine et un travail de culture à long terme.
Et alors la dimension européenne de cette année, est-ce que c'est juste la cerise sur le gâteau pour les élections ou chaque année ça va se reproduire ?
Non, c'était déjà le cas. Il y en a peut-être un petit peu plus, mais chaque année, nous avons des écrivains étrangers qui viennent sur le salon. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait un certain nombre d'auteurs, je dirais, régionaux, grandes régions, voilà, un certain nombre d'auteurs nationaux, mais aussi des auteurs de l'étranger, si on arrive à les capter. Parce que ce n'est pas toujours simple, mais
oui,
en termes de déplacement. Mais voilà, qu'on ait vraiment cette idée à la fois de mise en avant de ce qui se fait localement, mais également d'ouverture au national et à l'international.
Oui. Une petite parenthèse extérieure au Grand Narbonne. On sait que le Canard Enchaîné faisait remarquer il y a quelque temps qu'à cette période-là de la fin mai, il y a pas moins de 9 ou 10 salons à peu près en même temps en France, ce qui... tend à prouver qu'il y a véritablement un succès enraciné et bien réparti sur tout le territoire.
Je dirais, il me semble vraiment que le livre, c'est l'outil premier de la culture. Que la lecture, quand même, c'est avec la musique, mais quand même, le livre, c'est peut-être l'outil culturel qui rentre le plus dans un maximum de foyers.
Pourtant, assez délaissé ces dernières années ou décennies même. Enfin, l'impression de certains.
Moi, j'ai toujours été très étonnée par la vente des livres pendant le salon, par le fait que les personnes, quand même, lisent beaucoup. Et je crois que, justement, dans les nouveautés cette année, nous avons l'inauguration, j'en parlerai tout à l'heure, qui est un peu une nouveauté, puisque nous fêtons les 40 ans des éditions Verdier. Donc une maison d'édition qui fête ses 40 ans avec Colette Olive, c'est vraiment là, il me semble.
Précisez, Marie, que l'édition Verdier, c'est à La Grasse.
À La Grasse, oui, tout à fait.
Très local,
Oui, non, c'est vrai que moi je pense que voilà. Donc il y aura Colette Olive, Didier Denex, Colette Mazabrard, voilà. Et donc je pense que pour notre salon qui quand même soutient les auteurs, les libraires, les maisons d'édition, c'est vraiment cette belle chronologie. On va avoir un moment d'émotion, un moment historique, mais encore une fois, pour acter cette place privilégiée du livre dans notre société.
Alors, on va revenir sur le livre. Un petit mot sur les répartitions, les origines territoriales. Vous avez, Marie-Bat, cité l'Europe, des Espagnols, des Italiens. Bien entendu, il y a des auteurs nationaux. Il y a aussi des auteurs locaux. Quelle est, grosso modo, la proportion?
Je pense qu'on a 30% d'auteurs locaux. Peut-être moins, voilà. Je dirais, je pense qu'il y a quand même 30% d'auteurs locaux.
Ça fait quand même un petit tiers qui est là.
Oui, un tiers.
Et bon an mal an, qui se retrouvent chaque année, avec des gens d'ailleurs qui sont bien, on peut dire, bien établis déjà.
Tout à fait. Nous avons des auteurs locaux comme Fabienne Calvera qui sont connus. Enfin, on a quand même pas mal d'auteurs locaux qui
font des tirages, quoi.
Qui font des tirages. Bon, après, nous avons des auteurs de renom plus connus. Régine de Tambelle, qui est vraiment adepte de la bibliothérapie créative et qui est quand même une personne très reconnue et d'une littérature de grande qualité. Nous avons Xavier Demoulin. Enfin, on a quand même aussi Carole Fille, qui est déjà venu à plusieurs reprises. Bon, voilà, on a des gens très connus, et puis on a aussi des personnes moins connues, mais qui font des rencontres et des lectures différentes. Par exemple, nous avons innové cette année avec des lectures sur la péniche Le Solal. Donc là, il y aura Tiffany Tavernier, qui est romancière, scénariste, c'est la fille de Bertrand Tavernier. Nous avons Stéphane Levin, Marie Nimier, Philippe Bertin, Olivier Martinelli, qui, eux, feront vraiment des lectures sur la péniche de leurs œuvres. Marie Nimier aussi est déjà venue. Bon, voilà.
Oui, oui. Et alors justement, tout à l'heure, je citais le nombre de salons qui existent en France. Ça rend peut-être un peu plus difficile de faire venir des stars parce qu'elles sont sollicitées un peu partout.
Alors là, c'est tout le travail du service culturel. Savez que le service culturel, là, je tiens vraiment, j'en profite à ce moment pour les remercier, quoi, parce que c'est un service culturel restreint. Il y a Patrice Boulestin, le directeur, Marine Savreux, qui est responsable plus spécialement du salon, Ghislaine Duverdier et Sandrine Durand. C'est l'équipe du service culturel du Grand Narbonne. C'est une équipe restreinte, mais honnêtement, je tiens à le dire, bourrée de talent et de sérieux.
Oui, et on voit le résultat.
Je pense qu'il faut vraiment leur rendre hommage, parce que sans leur travail tout au long de l'année, et c'est Marine qui est chargée de contacter les auteurs pour voir si les maisons d'édition, les libraires, pour voir si l'auteur sera vraiment réellement présent. Donc tout ce travail-là.
Travail de Romain, vraiment.
Voilà, c'est vraiment le travail important sur le salon.
Oui, et alors justement, à propos de.
Voilà qui fait plaisir d'entendre, parce que rares sont les élus qui mettent en évidence le travail effectivement réalisé par leurs équipes techniques.
C'est-à-dire, si vous voulez, moi je reste quand même persuadée en tant qu'élu que nous donnons les idées générales, les impulsions générales.
Oui, à chacun son rôle.
Ouais, chacun son rôle. Mmh. Et bon, on en discutait tout à l'heure quand je suis arrivée. Je m'interdis totalement d'interférer dans le choix d'un auteur ou de. Je pense que une fois l'orientation générale les données, c'est aux professionnels de s'en saisir et de vraiment réaliser un salon du livre qui fonctionne. Et après, nous faisons le bilan tous ensemble, voilà. Mais je pense que le rôle de l'élu, c'est vraiment de porter une vision de la culture sans faire passer ni ses choix personnels, ni l'orientation.
Alors, le livre, traditionnellement, et vous l'avez un petit peu, vous y avez fait un petit peu allusion, Marie-Bath, c'est du papier, l'artisanat du livre, mais on sait que depuis quelques années, c'est aussi du numérique. Est-ce que ce livre, d'abord, ce livre numérique, comment le percevez-vous et comment le perçoivent les professionnels?
Nous avons innové cette année avec une journée professionnelle qui s'est tenue le mercredi 22 mai à la médiathèque. Et il y avait donc une conférence de Françoise Benhamou qui nous a fait un petit peu un état des lieux de la part du numérique par rapport aux pratiques des uns et des autres, en fonction aussi des publics. On s'est rendu compte que ceux qui allaient vraiment vers le numérique, c'était surtout les universités, les scolaires, les lycées, et que quand même le citoyen de base y allait, mais pas dans des proportions extraordinaires. Et ce qui était vraiment intéressant dans cette conférence, c'est qu'au lieu d'opposer ces deux pratiques comme on a l'habitude de le faire, là on était vraiment dans une complémentarité. C'est-à-dire que comme cela se passe en musique, on disait les gens vont vers le numérique, consomment de la lecture numérique,
pour découvrir,
dans certains cas pour certaines œuvres, consommer aussi, mais ça ne les détourne pas. Parce que ce sont des lecteurs, de l'acquisition des livres et surtout de la fréquentation des bibliothèques, des médiathèques. Donc, il y a des difficultés au niveau de l'édition, on le sait, mais je reste persuadée que là, il y a eu cette journée des professionnels et l'après-midi dans les tables rondes, s'est posé la question des transformations de ces métiers, mais plutôt dans une idée de mettre ensemble les pratiques et d'évoluer en prenant en compte le numérique, mais en sachant que le public a besoin d'échanges, de rencontres, de l'objet livre qu'il a envie d'avoir chez lui quand c'est un livre qui l'intéresse particulièrement. Donc c'est plutôt favorable à lire davantage. Je le dirai comme ça, je le perçois comme ça.
Oui,
c'est la lecture.
Oui, voilà. L'essentiel étant quand même qu'un livre, ça se lit pour revenir tout à fait aux origines. Vous avez évoqué alors des problèmes, il y en a partout, notamment dans l'édition. Vous y avez fait aussi allusion, il y a des maisons d'édition locales, il y a celle de La Grâce qui fête ses 40 ans. Il y a un certain nombre aussi d'éditeurs locaux qui sont présents et qui se battent pour occuper leur terrain.
Bon, là, on a quand même sur les éditeurs, je crois, 4 maisons d'édition régionales qui sont présentes, 4 librairies locales. Bon, je pense que, effectivement, pour les maisons d'édition et pour les libraires, il y a là un tournant un petit peu difficile à prendre. Il a été question dans cette conférence de livres qui avaient été édités il y a très longtemps et qu'on pouvait peut-être réimprimer sur place dans certaines librairies. Je veux dire, on était vraiment dans une vision du futur de ce que peut être une librairie. Alors, ça prendra du temps. Mais je crois que ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans plutôt aller vers un optimisme de changement de profession avec le fait que la lecture continuait à être un moteur pour notre société.
Voilà, alors Salon du Livre, donc ce week-end à Narbonne, ça nous amène à parler... Oui, alors encore un mot là-dessus, Marie-Bath.
Oui, je pense que je ne peux pas ne pas parler de la présence de Francis Huster, puisque nous avons, des nouveautés, mais nous avons aussi ce qui perdure chaque fois, c'est le spectacle. Donc c'est Francis Huster qui nous retrace la vie de Molière, donc monument, voilà, on ne présente ni l'un ni l'autre, je crois, mais je voulais le dire, bon, ce spectacle devait avoir lieu, et nous en avions convenu avec la mairie de Narbonne, d'ailleurs, avec qui on prépare ce salon dans de bonnes conditions.
Ah, il faut le souligner aussi.
Voilà, on a échangé, voilà, donc on était arrivé à investir la cour de la Madeleine Bon, mais la météo nous contrarie.
On a décidé autrement. Bon,
donc ce sera au Théâtre Scène Nationale à 19h.
Voilà, mais bon, la météo fait ce qu'elle peut, mais en tout cas, le Salon du Livre est là, il existe, et ça nous amène à déborder un petit peu Marie-Batte et à parler de la culture dans le Grand Narbonne, dans la communauté d'agglomération, culture dont vous êtes justement la vice-présidente. Alors juste, c'est, on peut le faire remarquer que ce n'est pas... pour beaucoup d'agglomérations, des compétences usuelles. Chez vous, c'est le cas. Quelle place lui accordez-vous, vous, vice-présidente, et quelle place lui accorde-t-on au niveau des instances ?
Je pense que le fait d'avoir reçu la gestion de tous les équipements culturels...
Alors, théâtre, conservatoire...
Voilà, théâtre, conservatoire, école d'art plastique, médiathèque et Amphoralis... Je pense que, de fait, progressivement, si on gère la partie technique, on est amené à gérer la partie culturelle.
Voilà. Après le le contenu.
Voilà. Donc, c'est vrai que les directeurs des différents équipements ont été désignés par le Grand Narbonne, en partenariat, par exemple, pour le théâtre avec la région, avec, effectivement, le département, voilà, dans un collectif, hein, de jury, mais... À partir de là, je crois que, là aussi, je pense que vraiment quand nous discutons en conseil communautaire, même si la culture coûte toujours un peu cher et que c'est de ce côté-là qu'on est...
Et qu'elle est déficitaire toujours.
Voilà, mais là on pourrait revenir sur le déficitaire à long terme, parce que moi je reste persuadée que de former les citoyennes de demain et de continuer à former les citoyennes tout au long de la vie, c'est peut-être pas déficitaire à long terme, sans doute pas, c'est un investissement plutôt, mais... Non, je pense que, honnêtement, sur le conseil communautaire, je pense qu'il y a cette idée que c'est important et que les gens soutiennent. Les gens soutiennent quand même la Tempora, qui a été un festival itinérant, qui a créé quand même une identité du territoire.
Dans certaines communes, la Tempora.
Alors, c'est choisi par les communes et c'est intéressant pour les communes de petite taille en termes financiers, il faut le dire.
Aide.
C'est une aide importante. Mais il y a eu ce choix de la Tempora. Il y a, après, ce sont quand même chaque directeur dans leurs équipements qui font la programmation. Ce qui a été important, c'est la mise en place du réseau de lecture publique pour la médiathèque, qui là a mis à portée tout ce qu'il y avait dans la médiathèque, dans les villages qui progressivement adhèrent à ce réseau. On doit être à 23 adhésions actuellement. Donc là, vraiment, on a une identité de territoire qui se construit. Vous parliez tout à l'heure du rugby. Moi, je pense, je le dis toujours, que les deux lieux où il y a un public le plus large possible, c'est sur un terrain de sport, quand on va voir un match de rugby sur notre territoire, et à la médiathèque, quoi. C'est là où on a une mixité sociale. Ailleurs, on a plutôt des publics ciblés. Et faire circuler ces publics, c'est un peu notre rôle. Donc, pense que toute la place qui est donnée à la culture, elle est vraiment réelle dans le conseil communautaire.
Comparaison inhabituelle, Marie-Batte, le stade et la médiathèque.
La plage aussi l'été, mais là, on est public.
Oui, la plage, parce qu'on peut y lire des livres.
Vous savez qu'il y a des opérations et lecture à la plage.
Alors, Marie-Batte, on va conclure là-dessus. Vous êtes, quand on est vice-président à l'agglo, on est aussi maire, forcément, d'une commune. Vous êtes maire de la commune de Bages. La question traditionnelle qu'on pose très souvent à nos invités, c'est « on est maire ». On est dans l'agglo. Parfois, certains disent qu'ils se sentent un peu écartelés, d'autres s'y sentent à l'aise. Aujourd'hui, la place du maire dans l'agglo. Et on conclura là-dessus.
Je crois que là, sur les deux mandatures, là, et celle que je vis actuellement, je pense que sous la présidence Bascou, que j'ai connue, moi, les maires des petites communes ont vraiment eu toute leur place. Alors, il y a des discussions, il y a des projets plus porteurs sur un territoire auquel il faut arriver à avoir une vision de territoire, ce qui n'est pas toujours facile quand on est maire, mais honnêtement, je pense que c'est une chance pour les communes que d'être dans une agglomération et d'avoir des compétences qui sont portées par cette agglomération, mais où nous avons toujours notre mot à dire, puisqu'il y a une conférence des maires où les discussions s'engagent au sein de l'agglo. Même pour les communes de petite taille où il n'y a que le maire qui représente la commune, je trouve que c'est très positif.
Ça, c'est le fonctionnement alors politique au bon sens du terme. Mais le grief qu'on entend souvent, c'est la la complexité qui est née de ces strates différentes. C'est-à-dire, on va voir le maire et on râle, on rouspète, et le maire est obligé de dire « Désolé, mais c'est pas ma compétence » ou « Ça n'est plus ma compétence ».
J'ai rarement cette attitude. Je pense que si je dis ce n'est pas ma compétence, je dis cette compétence, nous l'avons transférée à l'agglo et nous avons décidé ensemble que c'était... Je crois que c'est de ma responsabilité aussi. Je n'ai jamais eu un discours où je dis c'est la faute de l'agglo, c'est la faute au-dessus du gouvernement, c'est la faute de l'Europe. Je ne peux pas le supporter. Je pense que si on est responsable à la place que l'on occupe, on peut dire qu'on a été mis à minorité certaines fois, on peut dire ce que l'on a défendu, mais à partir du moment où une décision collective est prise, je crois qu'il faut en assumer une part de responsabilité quand on est élu.
Eh bien, je crois que c'est là-dessus qu'on va conclure. C'est une belle formule. Merci, Marie Bat, d'être venue à la fois nous parler de ce salon du livre, grand événement culturel de la Narbonnaise, et puis aussi de votre engagement, parce que ça reste un engagement, de maire d'une commune. On restera dans le sujet d'une certaine façon la prochaine fois, puisque nous recevrons le maire de Vintenac-Minervois, Christian Lapalu, mais comme je le disais tout à l'heure également, il a d'autres casquettes, notamment celle de co-président du Feuceleu, du club de 13 à Lézignan. Alors, on reviendra là-dessus aussi. D'ailleurs, il accepte de faire front sur ce sujet. Christian Lapalu, donc, pour la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Au revoir.